Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce live éthique. Nous sommes en direct du Fairmont Monte Carlo pour aborder la question du commerce équitable. Et même si c'est toujours difficile d'avoir des chiffres précis, il ferait vivre 8 millions de personnes de par le monde et générerait un chiffre d'affaires estimé à 300 millions d'euros en France. Alors ce commerce équitable, d'où vient-il? Que fait-il? Comment s'y retrouver dans la jungle des labels qui se veulent commerce équitable et qui ne le sont peut-être pas toujours? Quel rapport avec le bio? Quel rapport avec le développement durable? Quel rapport entre le commerce équitable et l'éthique? Quel est son avenir dans un monde où commerce est sans doute loin de rimer avec équité? Eh bien, c'est à ces questions auxquelles nous voulons répondre ce soir avec nos invités. Joaquin Munoz, le directeur de Max Havelaar France, un des principaux labels de commerce équitable dans le monde. Jean-Pierre Blanc, le directeur général de Malongo, un des tenants du café équitable dans le monde. Benjamin Leroy, le représentant d'EcoSapiens. EcoSapiens, c'est une société de Marseille qui a établi le catalogue des produits et des labels de commerce équitable. C'est à consulter sur Internet à travers un guide d'achat éthique. Et ce guide s'appelle « Les bons labels et les truands ». J'espère que Benjamin Leroy sera avec nous ce soir parce qu'il a quelques petits problèmes de train et de connexion, mais je pense qu'il arrivera en cours d'émission. Nassera Benoudjit, elle est coordinatrice de projet de développement à la Maison de l'économie et du développement solidaire à Sophia Antipolis. Il y aura aussi Geneviève Leguet, coprésidente d'Artisans du Monde à Nice. Enfin, Magali Oreglia, elle est gérante de la boutique Last Drop of Gasoline. En ces temps de pénurie d'essence, c'est presque prophétique. C'est un réseau de vente de mode commerce équitable et bio à Monaco.
C'est parti pour une heure d'émission live, en public et en direct, du Fairmont Monte Carlo.
Live éthique colle à l'actualité puisque le dernier manifeste de l'homme qui est à l'origine du concept de commerce équitable, Francisco van der Hoff, vient de sortir. Ce manifeste est paru aux éditions Encre d'Orient. Il s'appelle « Le manifeste des pauvres ». Francisco van der Hoff, c'est votre leader charismatique, Joaquin Munoz.
Oui, Francisco van der Hoff a fondé le label Max Havelaar il y a 20 ans, en partant du constat que malheureusement, les familles agricoles qui produisaient du café n'arrivaient pas à s'en sortir en vendant le fruit de leur travail, alors qu'ils voulaient vivre dignement et qu'ils voulaient investir dans leur communauté pour améliorer leur niveau de vie, mais également pour améliorer l'éducation des enfants et avoir un avenir.
Alors, quelle était son idée au départ dans les années 80 ? Comment voulait-il bouleverser les choses ? Parce que c'est ce qu'il veut faire, quand même.
Alors, Francisco est un révolutionnaire. Lui, il faut voir qu'il habite depuis plus de 35 ans en Amérique latine. Il avait été en tant que prêtre ouvrier aux côtés des mineurs au Chili. Il avait même passé l'étape de Salvador Allende à Chili. Et le constat qu'il fait, c'est que pour faire changer les choses aujourd'hui, il faut bien passer par des outils économiques. Et donc, arriver au Mexique, ce qu'il se rend compte, c'est que quand il arrive à Oaxaca, aux côtés des producteurs de café, c'est qu'il faut proposer une alternative au marché conventionnel et surtout une alternative qui propose finalement un prix d'intervention, un niveau de vie suffisant pour que le producteur lui-même s'engage sur le social, sur l'environnemental. Et donc c'est de là que sort l'idée du commerce équitable, du label Max Havelaar, qui garantit un mieux au niveau des producteurs. En contrepartie, eux s'engagent encore une fois sur les dimensions environnementales et sur le renforcement de la communauté et du social.
Justement, expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce label Max Havelaar. C'est le label emblématique du commerce équitable. Qu'est-ce qu'il inclut ? Qu'est-ce qu'il garantit finalement aux petits producteurs aujourd'hui ?
Le label aujourd'hui garantit énormément de choses et fait une différence par rapport au marché conventionnel puisque il garantit une stabilité des revenus des familles agricoles avec une notion de premium garantie, mais au-delà de ça, il garantit également une capacité d'investissement dans la communauté pour investir par exemple dans des écoles, dans des routes, dans des dispensaires, dans de la formation. Et aussi garantie qu'il y ait une durée dans la relation commerciale entre ceux qui achetons ici le café et les producteurs là-bas. Et en contrepartie, également le label garantit aux consommateurs que la communauté des petits producteurs, par exemple dans le café qui s'engagent bien sur le social, c'est-à-dire que le plus qu'apporte le commerce équitable est bien réparti équitablement entre les différents membres, que les investissements sont bien réels et vont bien dans la volonté de la communauté. Et donc là, c'est des notions de démocratie qui sont mises en œuvre sur le terrain. Et également, avec un volet fort environnemental, puisqu'aujourd'hui, c'est un passage de pas de pesticides si possible, voire du bio. C'est une gestion du territoire d'un point de vue ressources naturelles, sur l'eau, les déchets qu'on émet.
Je comprends bien, mais qu'est-ce
également aujourd'hui sur des questions de développement durable plus large, comme la compensation carbone
ou la préservation
de la biodiversité.
Monsieur Mignot, je comprends bien tout ce que vous me dites, mais qu'est-ce qui me le garantit finalement si j'achète un produit qui est labellisé Max Havelaar, que ce produit sera vraiment commerce équitable?
Alors, qu'est-ce qui garantit? C'est de passer par, par exemple, le label Max Havelaar, où nous, ce qu'on a, c'est une définition très claire des engagements, et ça, c'est accessible à n'importe quel consommateur, mais derrière, avec un contrôle effectif, qui est fait aujourd'hui par une société internationale spécialisée dans le contrôle du commerce équitable, qui va sur le terrain, qui visite et qui vérifie bien que les engagements sont une réalité.
Quelle est cette société?
La société s'appelle Flocert, et elle travaille dans les bonnes règles de contrôle et certification, puisqu'elle est reconnue par une norme ISO internationale qui s'applique à ceux qui font le contrôle et la certification.
Donc on est sûr que tout ce qui est estampillé Max Havelaar, c'est du commerce équitable?
On est sûr aujourd'hui que tout ce qui est estampillé sur le Max Havelaar est bien du commerce équitable, et c'est bien des engagements forts du commerce équitable qui sont mis en pratique à travers ce label.
C'est ce que dit Francisco van der Hoff, le commerce équitable, c'est un concept qui est totalement opposé à celui de charité, le don d'un objet.
C'est pour ça que je vous parlais, moi, de donnant-donnant. C'est pas de la charité, parce que moi, consommateur, je m'engage à acheter le produit en général un peu plus cher, 10% plus cher en moyenne. En contrepartie, les producteurs, par exemple, de café au Mexique, eux, s'engagent, comme je vous disais, sur une gestion démocratique, un volet social, en fait, sur pas de discrimination et sur le fait de bien cibler les investissements communautaires, mais également, en fait, sur l'environnement.
Alors, on va aller un petit peu plus loin que le concept de commerce équitable. En lisant le manifeste des pauvres, donc de Francisco van der Hoff, lui défend l'idée d'un social business. Qu'est-ce que c'est exactement?
Le social business de Francisco, c'est bien une opposition à ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, malheureusement, comme règle générale sur les marchés, dans le monde des affaires. Il manque crucialement aujourd'hui des entrepreneurs, des gens qui s'engagent sur, au-delà de faire de l'argent, faire aussi un effet positif en fait sur la société, par exemple éradiquer la pauvreté, par exemple s'engager durablement par rapport à la dimension environnementale. Donc c'est ça que Francisco appelle du social business, c'est faire évidemment du business, mais avec une orientation, un objectif qui est d'avoir un effet sur la communauté et avoir un effet sur la planète.
Donc c'est ça, en fait, c'est le critère, ça doit être de mettre l'homme et la planète au-dessus, d'arrêter l'exclusion et la destruction de la planète.
Exactement, et donc c'est pour ça que Francisco témoigne de son expérience dans le commerce équitable, mais également, il parle de finance éthique, il parle de tourisme durable, donc différentes démarches aujourd'hui qui sont petites, mais qui, à son avis, sont l'avenir de l'humanité, si on veut arriver à vraiment faire face aux défis aujourd'hui. On le voit sur la planète, parce que le réchauffement climatique, la difficulté qu'on voit de faire des produits agricoles en fait dans beaucoup de pays, mais également quand on voit toutes les migrations qui sont à venir, quand on voit en fait malheureusement la pauvreté qui est encore grandissante dans beaucoup de pays en développement et en particulier en Afrique, ben lui estime que le système va péter si on n'intègre pas ces notions de social business en fait dans le monde des affaires.
Il se dit aussi libéral, mais contre le libéralisme absurde. Il a changé de bord ou quoi?
Non, Francesco, encore une fois, se dit qu'il faut qu'on arrive à motiver les forces de l'économie en faveur de la société. Donc c'est pour ça qu'il parle d'un libéralisme, c'est-à-dire que lui, il dit que l'État ne peut pas tout gérer. Donc il faut laisser à la société civile, c'est-à-dire les ONG, c'est-à-dire les consommateurs, c'est-à-dire les entreprises, à arriver à s'organiser de façon à intégrer justement cette dimension sociale et environnementale dans leur façon de travailler. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dirigiste, il n'est pas dans une vision, on va dire, de dirigé par l'État. Par contre, il pense qu'il y a une force phénoménale aujourd'hui dans la société qui n'est pas exploitée, qui permettrait en fait d'intégrer justement le social et l'environnemental dans les actions économiques.
Est-ce qu'à terme, le commerce équitable est voué à remplacer le commerce, je dirais, classique?
À terme, je pense même malheureusement que le commerce équitable ne devrait pas exister. Ça serait une très bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que le monde économique ne créerait pas autant d'exclusion et n'aurait pas un effet aussi négatif sur la planète. Donc oui, à terme, il faudrait à un moment donné que ce soit très naturel pour une entreprise, qu'au-delà de faire de l'argent, qu'il n'y ait pas une concurrence au rabais sur les pratiques sociales et sur l'impact sur l'environnement.
Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, il arrive même à dire que le commerce équitable s'est dépassé. C'est dans ce sens-là qu'il l'entend.
Mais lui, il estime que pour arriver à avoir un effet de masse suffisant, il faudrait qu'il y ait différentes démarches qui convergent. C'est pour ça qu'il propose à la fin de son bouquin d'utiliser toutes les nouvelles technologies de l'information, et en particulier Internet, pour faire des plateformes pour que ces mouvements sociaux qui proposent une alternative au libéralisme sans âme deviennent unis et arrivent en fait à faire bouger les lignes de façon massive, c'est-à-dire auprès du plus grand nombre de citoyens de la population.
Alors il introduit aussi un beau concept, c'est celui de bonheur national brut, mais c'est quand même assez difficile à conceptualiser et à mesurer le bonheur national brut. Dans quel sens l'entend-il ?
Alors Francesco était pragmatique, c'est-à-dire qu'il part du constat que ses compagnons de route au Syrie sont finalement plus heureux sûrement que ses amis qu'il a encore en Europe. Donc à partir de ce constat-là, il se dit, prenons et inspirons-nous de ce qui se passe dans ces communautés indiennes, où finalement ils sont avec peut-être $3 par jour pour survivre, mais pour autant, il y a un vrai lien social, il y a une vraie solidarité, il y a une sensation de ne pas être laissé de côté ou tout seul dans cette communauté. Et c'est en ça qu'il dit, il faut qu'on dépasse le simple prisme économique, il faut qu'on intègre aussi des dimensions sur le bonheur individuel, le bonheur collectif. Et ça, je sais que Francesco, il échange énormément avec justement tous les mouvements qui proposent des alternatives au produit national but, qui est quand même un sujet qu'on voit apparaître dans d'autres sphères. On l'a vu dans le Grenelle de l'environnement, par exemple.
J'ai encore une dernière question à vous poser. J'aimerais que vous nous le décriviez un petit peu, parce qu'on ne le connaît pas très bien, Francisco van der Hoff. Comment est-il ?
Alors, Francisco van der Hoff, c'est vraiment un combattant qui a réussi à passer d'un idéalisme initial dans ses débuts d'année de combat à un pragmatisme toujours très volontaire, en fait, avec l'idée de révolutionner les pratiques et les mœurs. Et c'est pour ça que c'est toujours pour nous, Max Tavlar, en fait, un plaisir de pouvoir échanger avec lui et de l'écouter, parce que il est toujours avec un temps d'avance.
Merci beaucoup Joachim Munoz. Restez encore un petit peu avec nous si vous le désirez, parce qu'on va continuer à considérer ce commerce équitable. C'est Jean-Pierre Blanc qu'on va accueillir dans quelques instants.